Alors, on entame la deuxième demi-heure de l'émission L'Aérospatiale, toujours en compagnie de Julie Gagné et de Jacques Gignac à la mise en onde. En ce moment, si vous allez à la Galerie Zara, il y a une exposition qui s'intitule « Dessin, une exposition du collectif Tout est parfait », qui est composée de 8 artistes, notamment Amélie Laurence-Fortin, Peyo Elisséry, Guillaume Adjutor-Provost, Isabelle Demers, Rémi Cognier, Caca Plotes, Ink et Fit, ou Fils, ou Caca Plot.
Plot,
OK. Excusez-moi. Christine Comeau et Louis Bouvier, je suis rejointe par 3 des artistes de l'exposition. Amélie Laurence-Fortin, Peyo Elisséry et Isabelle Demers, bonsoir.
Salut.
Bonsoir.
Salut.
Vous allez bien?
Oui, très bien.
Excellent. Bon, première question, en fait, comment s'est effectué le choix de l'exposition? Qui a décidé de réunir les artistes pour l'expo?
Ben, ça fait à peu près un an. Puis ici, les 3 protagonistes que nous sommes avons décidé de faire cette exposition-là. Moi, à l'époque, j'habitais à Montréal. Donc, j'ai choisi 4 personnes à Montréal. Puis Amélie et Isabelle ont choisi 3 personnes ici à Québec pour se rejoindre et exposer. On a exposé au printemps passé à Montréal dans une petite galerie, L'Art passe à l'Est. Puis cette année, chez Zara.
Donc, vous exposez les mêmes dessins, c'est la même exposition?
C'est pas les mêmes dessins, par contre, c'est le même collectif.
OK. Puis comment est-ce que le choix des artistes s'est fait pour l'expo?
Bien, simplement par coup de cœur, on va dire. Donc, comme on avait déjà décidé d'être 3 pour décider, donc on avait chacun des pratiques très différentes, donc des goûts très différents. Puis c'était un peu ça qu'on voulait présenter dans ce collectif-là. C'est un éventail très, très large de ce que le dessin pouvait donner, finalement. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que chacun, on a choisi chaque personne. On a choisi des personnes qui nous touchaient par leur travail. Puis nous, entre nous, on se touche déjà par notre travail. Donc c'est juste des coups de cœur, finalement.
OK. Puis bon, le nom du collectif, Tout est parfait. Pourquoi Tout est parfait? Ça m'intrigue.
Ben, en fait, c'est pas vraiment le nom du collectif. En fait, c'est ce qui a été déterminé au hasard, puis c'est resté, je sais pas pourquoi c'est resté, en fait, là, mais c'est pas le nom du collectif.
OK, le collectif a pas de nom, nécessairement, c'est juste une manière d'appeler.
Non, définitivement pas de nom.
Ah, bon. Puis, quand on fait une exposition collective comme artiste, est-ce qu'on choisit ses œuvres en fonction des autres? Est-ce qu'on cherche à créer comme une certaine harmonie ou...
Là, il y avait une question aussi d'espace dans la galerie. Donc, on avait comme seule contrainte, finalement, de faire des trucs pas trop gros pour que tout le monde puisse avoir une place. Donc, c'est vraiment sans contrainte qu'on a travaillé, puis on est agréablement surpris du résultat final, de voir que ça s'emboîte si bien ensemble, en fait, même si c'est varié, que c'est quand même cohérent.
Oui, puis c'est important aussi qu'il n'y ait pas de ligne directrice pour que les dessins fonctionnent les uns avec les autres, parce que l'objectif, c'est de montrer plusieurs façons d'interpréter le dessin. Donc, comme c'est un médium qui est très personnel puis qui peut être interprété vraiment de façon différente, c'est important de garder cette singularité-là.
De vraiment montrer la grande variété. D'ailleurs, le dessin, si on élargit un peu, on voit de plus en plus d'artistes actuellement qui se consacrent presque exclusivement à la pratique du dessin. Dans les expositions, dans les événements, on a vu à la Manif d'art notamment. Est-ce que le dessin est en train de prendre ou de reprendre des lettres de noblesse actuellement?
Ben, je pense, dans le fond, qu'il n'a jamais perdu ses lettres de noblesse, mais c'est peut-être juste que la place pour le diffuser était un peu moins grande, mais que les gens pratiquaient de façon autant qu'aujourd'hui la pratique du dessin. Puis à la manif, je pense qu'il y avait quand même quasiment juste Amélie qui est présentée.
Non, mais là, c'est la manif, mais comme exemple d'événement, là, c'est toujours...
OK, mais non, je pense que ça a toujours eu beaucoup de popularité auprès des artistes, mais que... peut-être moins pour les diffuseurs, puis que c'est peut-être le rôle ou ce que les diffuseurs veulent présenter qui change et non la pratique des artistes.
Mais est-ce que la fonction du dessin n'a pas changé un peu quand même, peut-être au courant du 20e siècle, plus globalement, dans la mesure où avant le dessin était quand même utilisé comme une esquisse, comme préparation, alors que maintenant c'est peut-être plus un médium à part entière?
Oui, je crois tout à fait que ça a toujours été une pratique exploratoire, mais peut-être que justement les yeux sont plus tournés maintenant vers tout ce qui est aussi du processus, puis de ça ça suscite un intérêt là, de voir les explorations qui peuvent puis qui changent aussi cette espèce de produit fini qu'on a souvent qu'on voit souvent en art là. Donc
puis il y a beaucoup je sais pas, peut-être que je lance des idées fausses, mais il y a beaucoup de graphisme maintenant qui est visuel, qui est visible partout tout le temps. Puis le dessin, il y a quelque chose de très graphique aussi.
Ouais.
Puis on est je pense les gens beaucoup plus touchés que avant par les effets graphiques. Puis dans le dessin, il y en a tout le temps l'aléatoire, le retour, l'aller, le retour, les trucs qui sont plus simples, qui sont plus effacés. Il y a beaucoup je pense globalement le public est plus sensible à cette pratique-là aussi.
Puis dans le dessin, on le voit, bon, dans la peinture, on le voit dans différents médiums, il y a de plus en plus de métissage, en fait, entre les médiums. On va conjuguer la peinture, le textile, on va conjuguer le dessin, la sculpture. Est-ce qu'on cherche un peu de plus en plus à pousser les limites du médium, du dessin, d'essayer d'interroger un peu plus la technique?
J'ai pas l'impression qu'on est encore avec des considérations comme ça, de pousser les limites d'un médium, mais de vraiment faire qu'est-ce qu'on a envie de faire. Tu sais, quand t'as parlé de mixer dans le fond les techniques dans l'exposition, je pense qu'il y a juste moi qui ai présenté une sculpture avec un dessin, mais je le fais vraiment pas pour pousser les limites du dessin ou pour pousser la limite de la sculpture. J'ai juste pensé ce projet-là, les deux ensemble, et... j'avais vraiment pas comme cette considération-là. Puis je sais pas si c'est vraiment encore des considérations actuelles des artistes de pousser les limites d'un médium, mais de vraiment pousser ses limites à soi-même en tant qu'artiste, de qu'est-ce qu'on peut faire le mieux avec ce médium-là, mais de pas...
De pas se confiner dans un...
Ouais, c'est ça. De faire juste ce qu'on a envie, ce qu'on pense qu'on peut faire le mieux, tout simplement.
Mais vous, personnellement, si je pose la question à chacun d'entre vous, pourquoi vous avez décidé de pratiquer le dessin plus précisément?
Dans mon cas, le dessin, c'est une évidence parce que je voyage énormément. Donc, finalement, au début, je faisais plus... Il y a longtemps, un certain temps, je faisais plutôt de l'installation, puis je me suis facilement épuisée de devoir construire des objets en voyage. C'est devenu trop lourd, donc le carnet de voyage, le carnet de dessin est devenu identitaire, là, est devenu comme une source, puis finalement, ma pratique fondamentale, donc ça a été obligatoire que je passe au dessin grand format à un moment
donné. Donc, il y a peut-être une plus grande liberté aussi, parce que tu peux traîner ton cahier avec toi, puis aller sans trop de traîner de matériel non plus.
C'est ça, exactement, puis après, ben à un moment donné, j'ai délaissé finalement le 3D parce que ma pratique était toujours... parce que j'étais toujours en voyage. Donc, le dessin, c'est devenu la seule pratique réelle.
OK, qui est restée finalement. Toi, ouais. Isabelle?
Je pourrais pas dire que pourquoi je fais du dessin. Dans le fond, j'ai commencé plutôt en estampe à faire la sérigraphie, la gravure, la lithographie. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler plus le dessin en tant que tel, puis après c'est venu de soi. Je pense pas qu'on peut dire qu'on choisit vraiment son médium, mais que c'est en explorant un travail artistique qu'on se rend compte de ce qu'on aime vraiment, puis dans quoi on peut être bon, tout simplement.
Donc il y a plus de possibilités d'expression personnelle au bout du compte.
Ben pour moi, en fait, le dessin aussi c'est quelque chose qui est particulier par rapport à la ligne, puis au graphisme, puis une espèce de potentialité d'évocation plus, qui est plus proche de l'actualité, à vrai dire. Quelque chose qui s'apprête mieux pour moi dans ma démarche pour représenter quelque chose de la réalité. Disons que le dessin serait plus proche de cette actualité-là que la peinture, qui serait plus un travail de la substance, si on veut, une substance de la matière, tandis que le dessin... il montre quelque chose, il signifie plus directement.
Plus près du sujet directement.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est pour moi, évidemment.
Ben oui, c'est ça. Je m'interroge aussi sur vos pratiques personnelles. Dans l'exposition, je vais y aller avec toi, Amélie Laurence Fortin. Tu nous présentes deux dessins qui sont relatifs, je dirais, à la main. Je ne sais pas si je me trompe. Gore Point et Eddie Stone. Pourquoi traiter de ce type de sujet-là, précisément?
Dans ma pratique en dessin, je me suis toujours intéressée à la performance, à la chute, aux limites. Et puis cet été, je suis partie en kayak pendant 3 mois faire une expédition d'aventure en plein air, puis en survie, puis où les intérêts de la performance, la limite, la chute, tout ça, je les ai vécus physiquement, en fait. Donc, je me suis tout d'un coup vraiment désintéressée de ces sujets-là. Puis quand je suis revenue, j'ai décidé de... c'est sûr que je suis fascinée par la mer parce que j'ai vécu 3 mois sur l'eau. Mais, ouais. Mais je suis fascinée par la mer, puis par cette force-là. Puis les deux images que je suis allée chercher pour les représenter, c'est deux images de force. Donc, la mer puissante, c'est très fort. Puis aussi les rocs qui surgissent de nulle part, il y a beaucoup de force aussi. Donc, le choix de mes deux images, c'est des choix de force plus que des choix de mer, on va dire.
OK, carrément inspiré aussi de cet été. Toi, Isabelle, Greyhound, c'est comme une sorte de tablette avec des chiens sur lesquels il y a de la cire, avec le dessin sur le mur. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour ça?
Mais dans le fond, Greyhound, c'est la variété de chiens pour les courses de chiens, en fait. Fait que je me suis vraiment inspirée d'images de ces courses de chiens-là avec... ce projet-là, dans le fond, je l'avais déjà présenté une autre fois où j'avais aussi d'autres images, un accident d'auto, il y avait aussi un dessin mural aussi de courses de chiens, des choses comme ça, mais c'est des sujets qui m'inspirent. Je pourrais pas nécessairement dire pourquoi ça m'inspire, mais j'aime beaucoup ce type de les animaux en action, les animaux dans la vie de tous les jours, des choses comme ça. Puis là, de les faire en sculpture avec une montagne en arrière, je trouvais que l'idée de la course, s'il y avait plus du tout l'idée de la vitesse, c'était plutôt une idée de matière vraiment lourde où les animaux avaient plutôt de la misère à se déplacer puis à avancer là-dedans. C'est plus une action figée qu'une action rendue, dans le fond.
De mouvement.
Oui, il n'y a aucun mouvement, dans le fond.
Mais on sent qu'il y a une certaine poésie dans ton travail. Je ne sais pas si c'est moi qui suranalyse. Des fois, j'ai tendance un peu à faire ça.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a une poésie dans pas mal toutes les œuvres artistiques.
OK, donc c'est pas nécessairement la force d'évocation de la poésie que tu as cherché.
Ah non, du tout. Non, moi, c'est plus. C'est un peu plus simple que ça.
Merci. Peyo, toi, ton œuvre s'appelle Blockhouse. C'est séparé comme en deux parties. Donc, dans le haut, on voit une sorte de bunker. Dans le bas, moi, j'appelle ça comme des pastilles de couleurs parce que ça me rappelle un peu les pastilles d'aquarelle ou de gouache. Pourquoi séparer comme ça les deux, en fait? Parce que dans ce que tu as présenté aussi à Pampeinture, il y avait cette séparation-là entre le figuratif puis quelque chose d'un peu plus abstrait.
Ben c'est justement, j'essaie de tisser un lien, si tu veux, un lien qui se déploie autant formellement que vraiment dans le sujet. Donc, je trouvais ça assez judicieux que le dessin, qui est très graphique, qui fait référence facilement à une architecture et à un plan, comme on peut voir dans les parties de mon dessin, se rejoignent, soit ensemble. Puis il y a aussi toute cette idée des pastilles de couleurs, comme tu appelles. Moi, je conçois un peu comme une charte de couleurs. Ben ça, qui est une grille, en fait. Fait une référence au plan puis éventuellement à l'architecture. Puis c'est de coupler des éléments formels à quelque chose de plus... quelque chose qui est ancré dans l'actualité. Pour moi, le blockhouse, le bunker, justement, est un élément, un sujet très actuel qui est ancré dans cette actualité qu'on vit, ce qui est celle de la guerre, de l'isolement, du pouvoir, voilà.
Ben, Amélie Laurence Fortin, Isabelle Demers, Payot Ilseri, merci beaucoup. Si vous êtes intéressé, ça vaut la peine d'aller faire un tour à la galerie Tzara, l'exposition Dessin, donc de ces trois artistes et de plusieurs autres, je les renommerai pas. Vous pouvez aller voir aussi sur le site internet de la galerie Tzara. Donc, allez faire un tour, la galerie Tzara sur la rue Saint-Paul, c'est présenté jusqu'au 14 novembre. On s'en va en pause audio, on écoute un extrait de Minis Inconnus en boucle d'Alexis Bellavance sur les ondes de CKRL 89.1. On vient d'entendre un extrait d'Alexis Bellavance, Mini Inconnus en boucle, toujours à l'aérospatiale pour les 15 dernières minutes de cette édition du 2 novembre 2010. Je le répète, si vous êtes intéressé à nous envoyer des commentaires, des suggestions, des réflexions et autres tranches de vie, vous pouvez le faire par le biais de notre adresse courriel aerospatiale.ckrl@gmail.com. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre, des commentaires aussi à transmettre à nos chroniqueurs. Pourquoi pas, la porte est ouverte, le message est lancé. Et là, pour les 15 dernières minutes de l'émission, je suis rejointe par Félix Leblanc, qui a commencé à nous parler du mouvement Lowbrow depuis un certain temps. Bonsoir Félix.
Salut Julie.
Comment vas-tu?
Très bien.
Et là, cette semaine, tu nous amènes un invité.
Oui, je vous amène. Ben, en fait, je t'amène parce que là, on est seul dans le studio en compagnie de cet invité en question.
On est seul, mais on a tous nos auditeurs.
Oui, c'est ça. Je vous ai amené le délicieux Dan Brough.
Délicieux,
oui,
rien de
vous,
moins.
Vous, chers auditeurs, le délicieux Dan Brough est là avec nous.
Bonsoir, Dan.
Salut. c'est vrai, je suis délicieux.
Bon.
Voilà, vous en avez la preuve.
Là, la chronique okay, que je compte faire, que je vais entreprendre, va être, pour ainsi dire, un peu abstraite. Okay?
Oh.
Parce que, OK, on a commencé le Lowbrow. Là, je devrais faire la partie 2. Mais c'est pas une série de 24 épisodes. En fait, je vais vous dire qu'on va probablement bien boucler la boucle aujourd'hui avec ça. Parce que, bon, je vais vous expliquer pourquoi, mais pas tout de suite. En premier
que
lieu...
Que de suspense, Félix.
Totalement. Est-ce que tout le monde a du popcorn? Bon. OK. En premier lieu, je vous parle d'une exposition qui a lieu sur la rue du Pont au Morgan Bridge. On en avait parlé à un moment donné. Alex Lemay, directeur de la galerie, était venu. Et c'est une galerie qui est très en marge. Et que je vais vous parler de l'exposition en cours qui est super intéressante, qui a démarré le 22 octobre dernier, c'est-à-dire voilà, 2 semaines. C'est l'exposition d'un certain dénommé Chris Bou, hein? Et Chris Bou, de son surnom, nous fait une exposition qui s'appelle Shubunkin. Qu'est-ce que Shubunkin? C'est un type de poisson. Alors, non, ce n'est pas rien qui a entré au culinaire ou à quoi que ce soit, parce que moi, quand je vois des poissons, j'ai faim. Mais c'est pas vraiment ça. En fait, le Shubunkin, c'est un type de poisson et c'est en rapport à l'objet qui est utilisé pour produire les images qui sont exposées, qui sont des photographies en fisheye.
Oh, OK.
Voilà. Alors, on appelle donc la photographie fisheye. Fisheye, c'est un type de lentille qui, vous le savez peut-être déjà, va produire un effet arrondi de la réalité, va aller chercher un plus grand angle, va arrondir le tout. Et
un peu comme un Judas.
Voilà. Comme un Judas. Et on est totalement dupé. Voilà.
Ça, en fait, c'est comme si on était un poisson quand on regardait à travers la caméra. C'est n'importe quoi ce que je dis, pardon.
Effectivement. Bon, il aurait fallu mettre l'équipe Cousteau là-dessus, mais c'est... on parle de... Les photographies, donc, qui sont présentées à Morgan Bridge sont l'œuvre de Chris Bou. Je me suis entretenu avec lui pas plus longtemps que 20 à 30 minutes et il m'a parlé de la compagnie Lomo et qui produit des appareils qui ont des lentilles en plastique. Et la compagnie Lomo... nous donne donc des appareils qui s'appellent Diana, Olga, etc. Et ça booste les couleurs. Alors attention, les photographies qu'on voit là-bas, c'est le résultat du fisheye. Donc tout est rond. C'est des scènes endiablées de fêtes, de parties, un peu des situations cocasses, imprévues, un peu bizarres. Et puis qui sont faites avec un ring flash. C'est comme un flash éblouissant de paparazzi qui flou saisit l'action. Et puis vraiment, c'est avec des vieux appareils à crinque.
Bon. Oh.
Mais vous saviez que si on craint pas le film, ça crée une superposition.
Mais oui.
Je sais pas si on se souviendra du livre d'Antoine Desilets. Hein. C'est comme, bon, on sait tous que c'est des vieilles techniques. Et ils réactualisent ça, donc ils réemploient ces vieilles techniques-là. Ils nous présentent ça. Et no Photoshop, les amis, c'est tout à fait... il n'y a aucun trucage. Tout est là. C'est des très belles reproductions. Et là, je vous dis qu'il y a une pièce maîtresse de l'expo qui va être ajoutée donc dès demain. C'est une pièce composée de 94 photos et c'est comme une composition en forme de poisson finalement, mais les 94 photos font le poisson comme si on voyait un poisson pixelisé. Bon,
alors j'ai une question, est-ce que l'expo c'est commencé?
L'expo est commencé, ah, okay. Il y a 2 vendredis en fait, le 22 octobre.
Okay, c'est comme s'il rajoute quelque chose à l'expo.
Oui, il va rajouter cool, quelque chose de gigantesque là, à partir de demain, c'est intéressant. Donc, OK, on y va avec le Lowbrow.
Allons-y.
On se marre d'impatience.
OK, parfait.
On va aller voir l'expo de
Chris Boo. On va aller voir l'expo de Chris Boo. Chris Boo qui se termine le 22 novembre prochain. Parfait. Mais c'est ça. Allez-y dès demain, ça vaut la peine. Le lowbrow, OK. Bon, moi, on a parlé de l'histoire du lowbrow avec un certain Robert Williams, OK, un type, un Californien qui a fondé le mouvement lowbrow, qui a parti la revue Juxtapose, OK. On en a parlé de ça à la dernière chronique. Toi, Julie, après qu'on ait lâché le micro, ben, tu me dis, voyons, c'est quoi cette histoire-là de lowbrow? Il me semble que ça fait rockabille, tu sais. C'est pas un peu l'art des rock'n'roll? Ben, effectivement, il y a des démons, il y a des filles en bikini, il y a des cartes de poker et il y a des voitures.
Qu'en penses-tu? c'est assez rock'n'roll. C'est assez punk aussi comme attitude.
Oui, oui.
Trash. Ben, le nom le dit aussi, lowbrow, comment on le traduit?
Sourcil froncé,
oui, donc oui. Qui est peut-être un peu, entre guillemets, pour certaines personnes, de la haute bourgeoisie qui est de mauvais goût. Je pense que c'est une forme d'art. En même temps, je pense qu'il y a eu comme un mouvement, mais en même temps, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas comme un regroupement qui se parle.
Qui est cohérent.
C'est que je pense que c'est assez vaste comme façon de faire. Ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est toutes ces influences-là qui viennent du jeu vidéo, qui viennent du rock'n'roll, des pin-up. C'est quoi? Aussi, je pense qu'il y avait des trucs style hawaïen, là. Félix, je sais pas si tu te rappelles du genre de truc tiki.
Oui, le tiki art.
Fait que, tu sais, c'est comme un mélange de tout plein de trucs qui sont un peu comme considérés kitsch, si on veut.
Ben oui.
Mais aujourd'hui, je pense que, mettons, on pense à Morgan Bridge, on pourrait dire qu'il travaille dans le lowbrow, ils font peut-être pas que ça, mais c'est assez large, là, ce qu'on peut retrouver dans le lowbrow. En tout cas, selon moi,
oui, c'est très large. Expert, moi, j'ai mentionné dans la dernière chronique que la baronne de G.I. Joe et Nana Mouskouri produisaient une mélasse en forme qui crée, en fait, quelque chose, un composé psychique qui sert de nourriture au lowbrow, la pop surréaliste. On peut retenir ça. C'est comme DIY. C'est très autodidacte. Là. Le monde ne sont pas les choses
Ben, je pense que tu as raison, mais je pense qu'il y a du monde qui sont autodidactes. Je pense qu'il y en a qui sont formés. Puis qui, je pense à Peter Schultz, Peter Soul, un Américain. Que je pense qu'il est formé comme peintre, mais en fait, c'est que c'est pas un, dans le fond, ça n'a aucune importance. C'est un mix qui vient, dans le fond, le pop surréaliste, je pense que c'est le meilleur mot pour que, peut-être plus que lowbrow, en fait.
Parce qu'on peut associer vraiment.
Ben, c'est parce que je trouve que c'est plus large.
Deux concepts, justement, s'inspirer de la culture populaire dans une perspective un peu plus surréaliste, parce que j'ai regardé, j'ai fait mes devoirs quand même, j'ai regardé un peu ce qu'était le lowbrow.
Ouais.
J'allais regarder des images, notamment de Robert Williams, je crois son nom.
Oui.
Puis c'est très, très chargé aussi, souvent, là, comme type d'image. Puis c'est très. Il y a un aspect très illustration aussi, très léché, en tout moins de ce que j'ai vu.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est peut-être répandu dans le lowbrow.
Ben, je pense que si on parle de surréalisme, on se souvient du classique surréaliste Dali, là, j'imagine.
Ouais, ouais.
Je pense que c'est une grosse référence aussi.
Je pense que même parmi les artistes qui travaillent dans le lowbrow, il y a peut-être pas genre une façon de penser qui dit c'est ça le lowbrow. Fait que t'en as qui sont peut-être plus léchés que d'autres, t'as des trucs qui tirent à gauche, à droite. Mais je pense que c'est vrai que Dali, je pense une figure emblématique du surréalisme, mais je pense qu'on n'en sort pas. Là. C'est assez big. Pareil, là, Dali, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là, il est fort. Là.
C'est ça.
Puis je pense que quand tu dis que souvent quand tu regardes des trucs de lowbrow, c'est assez léché. C'est vrai qu'il y a une esthétique quand même qui est. On dit trash, mais c'est pas l'esthétique n'est pas trash nécessairement.
C'est
là.
Plus dans les sujets.
Ouais,
là,
c'est
qu'on
ça.
Est dans le
parce
trash.
Que c'est même c'est des exécutions assez impressionnantes là. Puis justement, je pense à. Moi, je reviens à Dali, mais Dali, des tableaux qu'il a fait vers la fin de sa vie sont hallucinants techniquement. C'est incroyable. Fait que, je pense que les artistes qui font du lowbrow, c'est pas nécessairement des gens qui sont. Qui ont aucun talent, là. C'est au contraire, là. C'est assez puissant comme technique aussi, là. Puis je me retourne vers Félix, qui est un artiste qui fait du lowbrow aussi. En tout cas, je sais pas si tu te considères comme ça, mais ton travail, définitivement, flirte avec ça au minimum, là.
Oui, on a dit ça, effectivement, mais là, on essaie de le définir, tu sais. Bon, même si la table est ronde actuellement, on n'est pas assez ronde qu'on en fasse une pour de vrai. Tu sais, on n'a pas le temps, mais je veux dire, il faudrait... Ça fait l'objet de plein de réflexions, puis à se demander ce que c'est réellement. Si j'ai le temps d'en parler, je sais pas si j'ai le temps ou j'ai un petit moment.
Un petit temps, là.
Je crois qu'on peut s'orienter. On peut regarder, là, par exemple, je peux vous nommer un artiste du lowbrow, c'est Joe Coleman. C'est le travail narratif d'un peintre du lowbrow, OK? Et Joe Coleman, il est né en 55. C'est un artiste qui va créer des cartes autobiographiques, et biographiques. Donc, il fait le portrait, par exemple, de Hank Williams. Il peut faire le portrait de Edgar Allan Poe, de Indian Larry, de même, comment il s'appelle, non? Néron, hein, l'empereur méchant.
Pourquoi pas, hein?
Mais il va créer des cellules, si tu veux, des cellules dans lesquelles l'histoire se raconte tout autour du personnage. Allez voir Joe Coleman. Et pour ainsi dire, je termine la chronique en remerciant Dan Brough parce que là, c'est déjà terminé. Mon Dieu, quelle déstructure, mes amis.
Allez-y. On comprend quand même.
Allez voir, par exemple, okay, le Bain Art Surreal Art Collective. Bain Art, c'est le B-E-I-N-A-R-T. Donc, B comme dans bébé, E comme dans... Non, c'est pas vrai. Bainart.org. Bainart vous donne un aperçu de plusieurs artistes du lowbrow, de la pop surréaliste. On va fermer comme ça parce que c'est déjà la porte est trop grande ouverte et on va être aspiré. C'est comme un puisard ou c'est un peu comme, je dirais...
Un maelstrom.
Les portes de l'enfer qui s'ouvrent. On va les fermer et vous irez vous-même.
Donc, et si vous avez des commentaires sur le lowbrow à transmettre peut-être à Félix Leblanc ou à Dan Brough, je le répète encore, hein, je fais de la plug. L'adresse courriel de l'émission, c'est aérospatial.ckrl... @gmail.com. J'ai en train d'oublier l'adresse pendant que je la disais. Félix Leblanc, merci.
Oui, merci Julie.
On se revoit dans exactement un mois.
Un mois
exactement. Dan Brough, merci beaucoup. Je suis certaine qu'on va avoir l'occasion de se revoir durant l'année. Et nous, c'est comme ça qu'on termine l'émission de cette émission du 2 novembre de l'aérospatiale. Restez à l'écoute de CKRL. Il y a une toute nouvelle émission qui débute dans moins de 5 minutes. C'est l'émission Les Bâtards qui est animée par Nicolas Dumont. Nicolas Dumont qui fut jadis mon collaborateur à l'émission Scrapbook et qui est aussi collaborateur à l'émission Avant 9h, Tout est possible. Il fait la revue de presse, donc c'est tout nouveau. Par la suite, il y a, comme à l'habitude, ma boîte à cassettes et toute la soirée nostalgie. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. C'était Julie Gagné qui était avec vous, Jacques Gignac à la mise en onde et restez sur les ondes de CKRL 89.1.